Bonjour, ici Pierre, le fondateur de Toutac. Toutes les semaines, je reçois une personnalité. La cheminée est allumée, on est sur une péniche, au bord de la Seine, et c'est une discussion à bâtons rompus autour d'un moment qui a changé leur vie ou le cours des choses. Mon podcast, il s'appelle Déclic. C'est une seule prise, zéro montage, zéro coupe. Un déclic dans notre vie, on s'en souvient. Il prend de la valeur avec le temps parce qu'il est porteur d'enseignements et comme une Madeleine de Proust, à certains moments, il revient. Une date, un visage, un geste remonte à la surface et quand on en parle, la voix change et se raffermit tant le souvenir est vif. Alors, dans le désordre, vous entendrez parler de vaches, de ruptures de négo, d'araignées rouges et de bien d'autres choses. Merci à tous ceux qui ont déjà passé 30 minutes au coin du feu ou de la terrasse. Rendez-vous toutes les semaines pour un nouveau déclic. À bientôt. Il est 10h30 aujourd'hui et il y a peu, des légères brumes flottaient au-dessus de la surface de la Seine. C'était très poétique. Mais là, nous avons le retour du couvercle, du brouillard et il fait froid. On se croirait à Bruxelles, comme dit Angèle. Je m'appelle Pierre et suis le fondateur de Toutac qui crée des podcasts dédiés à la formation et à la communication par la voix et produit Déclic, ce moment où tout bascule. Dans le fauteuil, dans les fauteuils, à côté de moi, nous accueillons Françoise et Jean-Philippe Bilaran. Bonjour.
Bonjour Pierre.
Bonjour Jean-Philippe. Pierre.
Eh bien, merci tous les deux d'avoir accepté cette discussion. Pour la première fois, vous êtes deux invités dans Déclic. Alors, cela sera peut-être un peu plus long que d'habitude. D'habitude, c'est 30 minutes. Bah, tant pis, si c'est 40 ou 50 minutes, on prendra le temps pour laisser du temps à la parole à chacun. Alors, votre histoire commune mène une vie d'entrepreneur et une double passion peu banale pour l'art contemporain et la musique contemporaine. En 1958, ton père, Jean-Philippe, crée une entreprise sous licence de Velcro qui propose des solutions de fixation de textiles novateurs, je vais appeler ça scratch, comme on l'a dit communément. En 1974, tu prends avec tes frères la relève de l'entreprise et en 2012, tu transmets à ton tour l'entreprise à ta fille qui porte le nom d'Aplix et qui est devenue numéro 2 mondial dans son domaine. Dans les années 70, vous commencez une collection d'art contemporain et vous ouvrez un lieu d'exposition, le Silo, en 2012, à Marines, dans le Val-d'Oise. Pourtant, constatant la spéculation de ce marché, vous décidez de devenir des mécènes pour des compositeurs de musique contemporaine. Jean-Philippe, tu t'impliqueras aussi dans la gestion de structures d'art avec la présidence du conseil d'administration du Centre national des arts plastiques et de la Cité de la musique. Voilà, j'espère avoir fait un tour à peu près précis. Et avant de parler du déclic que vous avez choisi, j'aimerais vous poser une question à tous les deux qui est, mais pourquoi vous tenez tant à faire visiter personnellement votre lieu, votre fondation, le Silo, puisqu'il faut prendre rendez-vous avec vous pour visiter vos œuvres? À vous de répondre et on va alterner les réponses.
Eh bien, parce que c'est une affaire tellement personnelle, c'est tellement... Les œuvres nous tiennent tellement à cœur qu'il nous semble qu'il y a que nous qui pouvons transmettre cette passion qui nous tient depuis plus de 40 ans. Ouais. Donc, si on fait visiter ce lieu, c'est pour transmettre, pour partager cette passion et faire découvrir à des gens vraiment de tout horizon. Ouais. C'est l'art contemporain, enfin celui que l'on défend, puisque c'est l'art minimal, conceptuel et géométrique abstrait. Donc c'est une certaine ligne.
Vous m'expliquerez un peu plus tard. D'accord. Et vous le faites en duo aussi?
Toujours.
Toujours.
Toujours. Ouais. On se relaie.
Je pense, alors, il arrive parfois quand il y a beaucoup de monde que... Nous répartissons la tâche et que nous fassions deux sous-groupes.
D'accord.
Et en guidant l'un et l'autre, chacun un de ces sous-groupes. Mais
d'accord.
En général, on aime bien se renvoyer un petit peu la balle, dire Françoise, qu'est-ce que à toi? Et puis Françoise me passe la parole. Et ça montre, je pense, aux visiteurs que c'est une aventure qu'on a vraiment faite à deux. Et d'ailleurs, si tu nous invites aujourd'hui à deux, c'est bien parce que...
J'ai compris que je n'avais pas le choix.
Non, on est, je crois qu'on est complémentaires. On se connaît depuis qu'on a 17 ans et 18 ans.
Hein. D'accord.
Et on est mariés depuis près de 60 ans maintenant.
Très
bien. Donc on a fait le chemin ensemble.
Voilà, on a grandi ensemble un peu.
Et bien donc, alors je vais tout de suite aller vers la question qui est le déclic que vous avez choisi? Est-ce que vous pouvez nous raconter?
Ah oui, ça, ah ben ça c'était en 1975. On était avenue Matignon, pas loin de chez nous, on se promenait. Et tout d'un coup, on s'est regardé, on s'est arrêté. On regardait les tableaux en vitrine et on s'est dit, mais... Pourquoi nous, on ne va pas à la recherche des artistes vivants? Pourquoi on ne recherche pas? On connaît l'art ancien, mais on ne connaît rien de l'art contemporain. Ouais. Partons à l'aventure, ça va être tellement merveilleux de vivre avec les artistes, de rencontrer quelle chance ont eu les gens qui ont connu Poussin, Piero della Francesca ou Giotto. Ouais. Donc nous, on va essayer de faire pareil. Mais on était totalement incultes. Donc voilà, on s'est dit, on va partir à l'aventure. Et c'était cette réflexion de ce dimanche, avenue Matignon.
Et tu te souviens, il y avait du soleil, il faisait chaud. C'est-à-dire, est-ce que c'est encore aujourd'hui une image que tu as en tête?
Le temps était clément, il me semble que c'était au printemps.
Oui.
C'était un dimanche comme ça, oui. Parce qu'on était sortis. Ouais. Et pour faire du lèche-vitrine. Ouais. Mais il y a, parce que les tableaux, avenue Matignon, étaient exposés. Il y avait déjà 5-6 galeries. Le monde a changé énormément, mais il y avait déjà des galeries. Et nous pensions que c'était le bel endroit, parce qu'au début du XXe siècle, l'avenue Matignon était prestigieuse. Les grands impressionnistes étaient là, ou dans les environs immédiats de ce quartier. Donc on s'est dit, c'est là qu'il faut aller. Évidemment, on avait 60 ans de retard.
et cette ligne, le fait de partir vers des horizons nouveaux, avec des gens d'aujourd'hui, comment vous avez fait pour vous faire votre goût? Alors j'imagine que vous aviez déjà du goût, mais comment vous avez construit, et comment on construit un goût, une collection d'art, puisqu'aujourd'hui vous avez une collection d'art? Comment vous avez fait vos choix?
Eh bien, le goût que l'on avait, ce n'était pas le bon. C'était le goût pour l'art ancien. Ouais. Donc c'est ça, très très dangereux. Ouais. Donc il faut le mettre de côté, ce goût.
D'accord.
Et commencer à parcourir les expositions, les galeries, écouter les artistes, parce que pour nous, ce sont les artistes qui parlent le mieux. Et puis apprendre. On a l'habitude de dire, on a fait nos classes.
Oui.
Nos classes, elles ont duré quand même, presque 7 ans.
Presque, oui, 7-8 ans.
Et même peut-être...
On a le souvenir d'une visite qu'on avait faite.
Ouais.
Je te raconte cette anecdote. Dans une galerie qui était une jeune galerie à l'époque, une galerie tenue par un personnage magnifique qui s'appelait Michel Durand-Dessert. Mm-hmm. Durand, c'était son nom, Dessert, celui de sa femme. Et ils avaient une petite galerie, c'était rue de Montmorency.
Oui.
Et on nous avait dit, allez dans cette galerie, vous verrez, c'est nouveau. Et on est monté au premier étage. Et on rentre dans la galerie et on voit trois tiges.
Deux grandes barres.
Des barres horizontales recouvertes de tissu. Et on se dit, il y a un monsieur qui fumait la pipe. On se dit, bon, l'exposition n'a pas dû commencer. Nous sommes partis, revenus la semaine suivante, la même chose. Alors là, on interroge, on dit, pardon monsieur, mais votre exposition, ben c'est ça.
Ouais.
Ah, et qu'est-ce que c'est ça?
Ouais.
Et il nous explique que c'était un artiste qui avait retiré de ses tableaux une bande qu'il appelait le channel, et c'était la trace de ce tableau qui restait. Et pour nous, c'était un déclic. On s'est dit avec Françoise, mais l'art, finalement, ça s'apprend. C'est pas j'aime pas. Il faut parler, écouter, lire, voyager, voir.
Ouais.
Donc ça a été vraiment ça, un
autre déclic.
D'accord, devant une œuvre.
En se disant, mais non, il faut demander à chaque fois ce que veut dire l'artiste, interroger et puis apprendre. Et maintenant, quand on fait visiter le silo, c'est ce que l'on dit aux personnes, l'art, ça s'apprend. C'est pas le
ça s'éduque, si tu veux.
Ça s'apprend. On apprend l'histoire de l'art. Nous, on n'a pas fait d'études d'histoire de l'art, mais on l'a appris. Comme ça, au cours, en visitant les expositions, en lisant, en écoutant. On a eu des gens formidables comme Serge Lemoine, qu'on a eu la chance de rencontrer, qui nous parlait de l'art d'une façon formidable. Donc, en arrivant chez nous, on prenait les livres, on étudiait, on voulait savoir.
Et donc, vous mettiez un peu de côté votre cœur, vos sentiments? C'est-à-dire, comment vous gérez le... Tu vois, là, je sens une approche un peu conceptuelle quand même.
Oui,
c'est-à-dire que...
Oui.
Et comment vous gérez les deux?
Alors, tu as raison. Le cœur, il faut le mettre de côté parce que le coup de cœur, c'est le danger. Mmh. Si tu as un coup de cœur pour quelque chose, c'est parce que ça te fait penser déjà à un objet que tu as vu, que tu as aimé ou que tu as regardé à un moment donné dans ta vie. Et ça, c'est dangereux parce que celui qui fait aujourd'hui ce tableau, cette sculpture, qui t'évoque quelque chose que tu as dans ta mémoire, probablement c'est quelqu'un qui n'est pas, on va dire, à l'avant-garde, qui ne fait pas des choses nouvelles.
Ce n'est pas un créateur.
N'est pas un créateur.
C'est un suiveur.
Au point que, tu vois, nous, on dit que l'œuvre doit résister. On avait un ami qui dirigeait, qui était un restaurateur, dans le sens d'un restaurant. Il avait un restaurant qui s'appelait Mazarguil.
Un restaurateur de Havre.
Roger Mazarguil,
qui était un restaurant qui s'appelait...
Qui était porte-maillot chez Georges.
Chez Georges.
D'accord.
Et qui était un passionné d'art. Et il nous disait, ah, moi, j'ai retenu la formule d'un de mes confrères italiens qui disait, l'art, ça doit être duro. Ça doit être dur, ça doit te résister. Nous, on a fait l'expérience avec la première œuvre qu'on avait achetée.
Une catastrophe. C'était un sous-bois sous la neige. Ça nous rappelait les impressionnistes, c'était très plaisant à regarder.
C'était pas un saut dans l'inconnu. Hein.
Mais on l'a accroché dans notre chambre. Et puis, on le trouvait tellement beau quand on achetait un second, même si à l'époque, nous, quand on achetait, on payait à la petite semaine et c'était important ce qu'on donnait. Et puis au bout de 6 mois, on s'est regardé encore un matin. On s'est regardé dans notre chambre et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a été acheté? C'est sans intérêt, on ne peut plus les voir ces tableaux. On ne peut plus les voir ou on passe devant sans les regarder. Donc, on a pris les deux tableaux, on les a ramenés dans cette grande galerie de l'avenue Matignon.
D'accord.
Et on nous a donné en échange des petits dessins. Mais c'était peu importe, on ne pouvait plus les voir. Parce que c'était une erreur de notre part. Donc, voilà, on est rentré à la maison avec nos petits tableaux, nos petits dessins.
Et alors, quel a été finalement au début, parce que c'est passionnant de comprendre comment vous faites ce saut, c'est-à-dire vous tournez le dos à ce qu'on voit, finalement vous tournez le dos un peu à votre intuition, c'est-à-dire que l'intuition elle naît du passé, donc il faut que vous désappreniez à regarder les œuvres.
Oui.
Et quelle a été finalement la première rencontre d'artiste qui vous a frappé et qui vous a guidé? Vous en avez eu certainement beaucoup.
Alors, j'ai d'abord eu une rencontre en 78 d'un monsieur qui s'appelait Édouard Loeb, qui était le frère de Pierre Loeb, le grand marchand d'après-guerre. Et Édouard Loeb avait une petite galerie rue de Rennes. Et en vitrine, il avait un tableau de Magnelli. Magnelli, c'est un peintre qui est mort dans les années...
En 71, je crois.
Et il était mort, mais... On est rentré dans la galerie, ce tableau était de 1914, c'était un tableau merveilleux. Et là, on a rencontré après Madame Magnelli à Meudon, on est allé la voir, on est devenus très amis, et elle nous a appris la rigueur, la construction. Que dans un tableau, c'était très important, la rigueur et la construction.
Que le tableau soit pensé avant d'être réalisé.
Elle nous a parlé de harpe, de Sophie Tauber harpe, de Jean harpe et de sa femme. Elle nous a parlé de Théo van Doesburg, qu'elle avait connu, qu'elle avait côtoyé. Tout ça, ça nous a ouvert les yeux. On est allé chez elle à Meudon, on a vu des tableaux très construits. Et on s'est dit, oula, ça c'est déjà... Et ensuite, on a rencontré Jan Vos. Jan Vos, qui est un artiste avec qui on a gardé des œuvres de lui, mais ce n'est plus un artiste que l'on suit, mais pour qui on a une grande affection. Parce que d'abord, on se côtoie toujours, on est heureux de se voir. Et il est la première fois qu'un tableau de lui est rentré à la maison. C'était un grand tableau blanc avec une sorte d'écriture. Il racontait un peu son histoire avec des... Et c'était...
Quasiment abstrait.
Totalement abstrait. Ouais. Et là, ça... Tout ce qui était au mur, on s'est dit, oh là là, là, ça ne va plus du tout. Donc tout ça, ça a été des...
Et donc vous avez commencé à décrocher des choses que vous aviez achetées pour raccrocher de nouvelles choses.
Et on a été plus loin, Pierre. C'est qu'à un moment donné, on a tout enlevé. On a enlevé les meubles, on a enlevé le tissu qui était sur les murs,
la moquette.
Et on a dit, le plancher, il doit être blanc. les murs, ils doivent être blancs, les meubles qu'on avait hérités de nos parents, ben, il faut les changer et mettre des meubles, Le Corbusier,
Malestevens, Stark,
de notre temps, enfin, moderne, on va dire.
Oui, oui, je comprends, contemporain.
Voilà,
contemporain.
voilà. Donc, on a changé notre environnement déjà, de notre façon de... Et puis, on a rencontré quand même aussi des personnes formidables, comme Suzanne Paget, grâce à Yann Vos. Mm. Suzanne Paget, vous savez, qui dirige maintenant chez Arnaud. Donc, c'était quelqu'un... Quand on a dîné avec elle, on l'a écoutée parler, et... On s'est dit, oh là là, il faut peut-être... Là, nous, on fait fausse route là, dans tout ça. Donc, tout ça, ça a été une suite de petits déclics. Mais vraiment, on a appris qu'il fallait être très modeste dans ce domaine, écouter, et puis après, faire son idée à soi. Hein. Ouais. Faut pas faire une collection avec des oreilles, parce que ça, il y a trop de gens qui le font, et c'est surtout pas ce que l'on a fait.
Il faut savoir que notre critère maintenant, c'est qu'est-ce que cet artiste apporte à la grande construction qu'est celle de l'art. L'art, c'est une immense pyramide ou je ne sais, ou bâtiment. Ouais. Et chacun qui compte dans l'histoire de l'art y a apporté une pierre. Donc quand on regarde une œuvre, on se dit, ben, là, qu'est-ce que ça apporte? Alors, il faut regarder plus d'une, il faut parler avec l'artiste, etc. Et là, à un moment donné, on se dit, ah, lui, il apporte sa petite pierre. Au début, c'est souvent très petit, très mince, parce qu'il y a les influences. Mmh. Tout artiste a des influences, qu'elles le confortent ou au contraire, qu'ils s'opposent à des anciens. Mais pour nous, c'est ça qui est essentiel.
C'est valable quand on a déjà la connaissance, quand on a appris. Parce que pendant les 7 premières années, où on était en train d'apprendre quand on faisait nos classes, là, on aime un petit peu tout, on ne sait pas ce qu'on aime, on va un peu dans tous les sens.
Et puis, vous achetez quand même, c'est-à-dire que vous commencez à acheter ou vous, surtout vous tournez
on commence un peu à acheter, oui. Mais pas bien. Enfin, c'est parce que le goût n'est pas fait. C'est comme c'est dans tous les domaines, c'est la même chose. Hein. Ouais. Si on se lance dans les antiquités ou l'art primitif qu'on a un petit peu touché aussi. Si on ne connaît rien, on sait pas trop ce qu'on aime. On sait pas trop la qualité. Et peu à peu, ça se resserre. On devient plus
exigeant.
Plus exigeant.
D'accord. Et quand vous êtes en relation avec un artiste, vous commencez à en acheter une œuvre, puis deux, puis trois, puis peut-être plus. Est-ce que le regard de l'artiste change vis-à-vis de vous? Parce que vous êtes quand même celui qui va lui apporter du financement pour sa vie.
Oui.
Est-ce que vos commentaires, il va en tenir compte? Comment s'instaure le dialogue entre un collectionneur-acheteur et un artiste?
Alors, le plus souvent... on n'achète pas directement à l'artiste.
Hein. D'accord.
On achète via le plus souvent des galeries. On achète également en vente publique, mais là en parlant à l'artiste, en disant il y a une œuvre de toi qui passe, est-ce que tu es d'accord, est-ce qu'on peut l'acheter? Le plus souvent, ils disent ben, je serais ravi que ça soit chez vous plutôt que chez quelqu'un que je ne connais pas. Et on l'achète à lui quand il se trouve qu'il n'a pas de galerie à un moment donné, etc. Mais je ne pense pas que le fait qu'on soit acquéreur pollue nos relations amicales avec l'artiste. Il y a des artistes, d'abord, qu'on ne peut plus acheter, parce que les prix de leurs œuvres se sont envolés et sont inaccessibles pour nous. Il y en a d'autres auquel on n'a pas acheté depuis pas mal d'années, mais avec lesquels on a toujours ces relations amicales qui fait qu'on a la même passion, on partage les passions pour un certain nombre d'événements artistiques, qu'on va aussi parler avec eux des choses de la vie courante. On va parler gastronomie, on va parler voyage. Ce qui fait que ce sont des amis au sens fort.
D'accord.
Et je pense qu'il n'y a pas de pollution de
Oui, parce que chez nous, l'amitié avec les artistes, c'était, très important. Hein. Ouais. Si on a l'habitude de dire qu'on n'a pas voulu être collectionneur au départ. On a voulu être dans notre époque, vivre avec les artistes de notre époque. Et puis surtout, après, se dire, mais on va vivre avec eux. Et Jean-Philippe était un homme d'affaires, voyageait beaucoup. Mais les repas d'affaires, il les évitait au maximum, ouais. Parce que nos repas, nos dîners, c'était avec les artistes.
D'accord. Et alors, tout au début, en préambule, tu disais, François, est-ce que vous avez fait une sélection, vous êtes vers de l'art minimaliste.
Oui, conceptuel.
Conceptuel. Et comment vous êtes arrivé, parce que là, tu parlais encore de ta donc je ne suis pas sûr que vous achetiez beaucoup de tableaux encore aujourd'hui.
Non, ça dépend. Il y en a parfois qui font encore des tableaux.
Et qu'est-ce qui vous a amené à aller jusqu'à l'art minimaliste et l'art conceptuel? Comment vous avez fait ce travail d'épuration? Je ne sais pas comment dire.
Alors, Françoise a évoqué tout à l'heure une rencontre avec Madame Maïeli, hein, qui nous a appris... fait découvrir l'art du Bauhaus, l'art d'Hostel, l'art constructiviste aussi, quand on a poussé.
Oui, Mondrian.
Et on a eu deux idoles. Deux idoles. Bon, j'exagère.
deux parrains
qui sont Mondrian et Malevitch.
D'accord.
Et ça nous a guidés. Et tout l'art vers lequel on s'est tourné, c'est un art où les artistes remettent en cause le statut des œuvres qui sont en train de des œuvres du passé. C'est la peinture qui va
remettre en cause.
D'accord.
La peinture et la sculpture.
C'est la peinture qui est remise en cause. Qu'est-ce qu'on peut faire après des Rodchenko, les trois monochromes.
1921.
C'est la sculpture. Qu'est-ce qu'on peut faire après Brancusi? C'est donc tout ça qui nous a guidés. Et on sait qu'il y a d'autres formes d'art qui existent. Il y a un art qui est sociétal, qui va parler de la société. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'un art qui s'intéresse aux minorités. Hein.
D'accord.
Minorités, la femme, les minorités ethniques, etc. Nous, on sait que ça existe, hein. Qui est un art souvent figuratif, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est cet art-là, cet art qui va remettre en question les problèmes fondamentaux de peinture, sculpture.
Voilà, des artistes comme Claude Ruteau, qui lui a remis complètement en question l'histoire de la peinture, Carl André, qui est aussi la sculpture, lui, qui est venu de Brancusi, Rodin Brancusi, et puis qui a inventé
Toroni
avec son empreinte. C'est pour nous, sont des artistes majeurs.
Et qu'est-ce qui va faire que vous allez décider d'accrocher et de rendre visible votre collection, donc le silo? Vous créez un endroit dans le nord de l'Île-de-France, dans le nord de Paris. Qu'est-ce qui vous amène à faire ça? Pourquoi un collectionneur privé se dit à un moment donné, je franchis un pas? Qu'est-ce qui s'est passé?
Pour défendre nos artistes, on trouvait que même si certains étaient présentés, parce que beaucoup sont présentés au Centre Pompidou, dans les musées, mais on trouvait pas assez montrer des ensembles. Nous, on cherche pas à faire un échantillonnage d'artistes. On suit une quarantaine d'artistes. Ouais. Mais on les suit depuis certains 30 ans,
d'accord.
35 ans. Donc on a des ensembles de ces artistes, d'œuvres de ces artistes. Donc on veut montrer aux gens ce qu'un artiste, plusieurs œuvres de cet artiste. Pour la compréhension, c'est indispensable. Voir une œuvre d'un artiste, c'est très difficile à juger l'artiste. Donc, nous, on voulait faire des ensembles. Et donc, c'est pour défendre nos artistes, défendre leurs œuvres.
En fait, on s'est dit, là aussi, il y a un déclic. Hein.
Ouais.
On s'est dit un jour, tu sais, on avait tout mis dans des containers. On avait 4 containers. On prêtait des œuvres et le malheureux transporteur qui à chaque fois devait aller chercher au fond d'une caisse une œuvre et toutes les autres restant là, on s'est dit un jour, mais c'est pas possible. On dit qu'on défend les artistes et leurs œuvres sont enfermées et on les montre pas.
Ouais, je comprends.
Vraiment les défendre, c'est les montrer. Bien sûr, c'est acquérir leurs œuvres, mais avant tout, c'est les montrer. C'est ça qu'ils attendent. Et c'est ce qui a été de...
Oui, mais on l'a fait un peu tardivement, parce que Jean-Philippe travaillait beaucoup. Ouais. Il a fallu qu'il soit en semi-retraite pour qu'on se dise, bon, il faut trouver un lieu et il faut faire partager notre passion. Et voilà.
C'est alors, J'espère que je vais pouvoir venir, donc on prendra rendez-vous de vous, moi j'ai très envie de le voir. Et quand j'ai vu les photos donc, sur Internet, ça m'a fait penser à un lieu que j'ai visité au nord de New York, qui est Beacon.
Beacon, c'est notre modèle.
Ce qui est un endroit absolument extraordinaire, vraiment, enfin en tout cas qui m'a beaucoup enthousiasmé. Et vous avez pensé à ça quand vous avez créé le silo ?
Bien sûr.
Pour nous, c'est, si tu veux, il y avait cet exemple-là, mais qui était une dimension 10 fois la nôtre, hein, parce que nous, on a 2200 m². Oui. La Diabicone, je crois que c'est 24 000 m². Hein.
C'est une ancienne usine de Nabisco.
Exactement. Et c'est un lieu magique. Et un de nos grands plaisirs, c'est quand un Américain, parce qu'on reçoit pas mal de trustees, hein, de la côte Est, de la côte Ouest, etc., ils viennent en groupe. Et quand il y en a un qui est des... On ne savait pas qu'il y avait une petite Diabicone en France. Alors non, nous on fond à ce moment-là. Ouais. Alors il y a eu d'autres exemples quand même. On a eu, il y a un ou deux collectionneurs belges extraordinaires qui sont malheureusement dans les 24 derniers mois tous les deux disparus, qui avaient des ensembles qu'ils montraient. Et ça, c'était des gens admirables aussi. Hein,
Oui. Il y avait à Gand, les Herbert, Annick et Anton Herbert. Anton vient de mourir, malheureusement. Mmh. C'était des amis. Et puis, il y avait Hermann Daled, qui, lui, a vendu une partie de sa collection au MoMA à New York. C'était des amis très proches, avec qui on a beaucoup échangé. Et c'était un peu des modèles aussi.
Et est-ce que je peux semer la zizanie entre vous 2 secondes, en vous demandant si vous êtes toujours d'accord. Parce qu'à un moment donné, si vous êtes deux, vous pouvez très bien ne pas avoir la même appréciation des choses.
Non, écoute, je pense qu'on est toujours d'accord. Et de toute façon, quand il y a une certaine réticence, généralement, elle vient de Françoise, qui est un petit peu plus pondérée que moi, qui ait un enthousiasme un petit peu plus rapide. À ce moment-là, on attend, on réfléchit, et puis on saute le pas ou on ne le fait pas. Mais de toute façon, on fait les achats à deux, sauf une ou deux exceptions exceptionnelles, tout au début de... une ou deux exceptions, tout au début peut-être de notre aventure, où une fois tu as acheté une œuvre sans ma présence, une fois moi j'ai acheté une petite chose en Italie sans toi, et on ne les a pas gardées.
Alors, j'ai une question qui va plus vers toi, Jean-Philippe, puisque quand tu étais dirigeant de ton entreprise, tu as aussi créé une usine en ayant un soin particulier à l'esthétique de cette usine. C'était dans la même démarche. Tu peux nous raconter pourquoi tu as fait ça ?
Bien sûr. En fait, je pense qu'on peut faire des belles choses sans un coût supérieur à la construction d'une caisse à savon. Et en l'occurrence, il s'agissait donc d'une usine à Plix dans l'ouest de la France, pour lequel, avec Françoise, parce que Françoise y a participé à la recherche de l'architecte qui pourrait le faire. Et nous avons demandé à toute une série d'architectes ce qu'ils feraient, comment ils voyaient la construction d'un bâtiment pour faire le produit qu'on leur a montré. Et il y en a un qui nous a séduits.
Ben oui, c'était Dominique Perrault.
Oui. C'est Dominique. Alors, qui a refait les tours qui sont à 300 mètres d'ici, qui est un travail absolument remarquable.
Oui, voilà. Ben, d'abord, on a été séduits par le personnage, parce que c'est un garçon, je ne sais pas si tu le connais, c'est un garçon vraiment formidable. Et puis aussi parce que la grande bibliothèque qu'il nous a fait visiter nous plaisait beaucoup. Ouais. Donc, on a beaucoup parlé, nous a parlé du projet qu'il allait faire pour Applix. Ouais. Et puis, c'est passé en conseil d'administration quand même.
Hein, bien sûr. Et donc, ça a été approuvé. Mais Dominique Perrault, c'est quelqu'un qui écoute le donneur d'ordre. Et je me souviens, enfin c'est une anecdote, au début, il avait dit, je vais faire une usine, ça va ressembler à ton produit. Donc il y avait des éléments qui étaient un petit peu comme cannelés, un petit peu. Et mes conseils, mon bureau d'ingénierie me dit, mais enfin, il est fou, votre architecte, il est manque cannelé, vous voyez, au point de vue des circulations, au point de vue du développé, ça va nous coûter plus cher. Alors Dominique Perrault, je lui dis, il faudrait peut-être en supprimer quelques-uns. Il dit, non, on va tout supprimer, on va faire tout droit alors. Et puis alors après, le toit, il nous dit, moi je veux rien sur le toit. Je retourne vers mes ingénieurs qui me disent, ah ben d'accord, on ne veut rien sur le toit, mais alors tous les systèmes pour l'air, pour l'humidification, si on les met à l'intérieur, il faut monter le bâtiment de 6 mètres de plus. Alors je retourne vers Perrault, je lui dis, bah, faudrait peut-être quand même mettre une ou deux choses sur le toit. Il me dit, non, non, on va tout mettre sur le toit, on va l'urbaniser, le toit.
D'accord.
Donc voilà, c'est cette intelligence, de cette capacité de s'adapter, de systématiser une problématique. Et ça, moi, je l'ai trouvé absolument exceptionnel dans cette mission qu'il a fait pour nous.
C'était une belle aventure aussi qu'on a menée à deux, parce que j'étais là bien présente aussi pour ce projet.
Et il l'a agrandi, l'usine, il l'a encore récemment, il l'a agrandi de plus de 50%, et c'est lui à qui notre fille a confié aussi cette ce travail.
Et pour le silo, c'est à lui qu'on a demandé au départ.
Mais je crois que vous n'avez pas continué.
On
finalement
a déposé le permis de construire avec lui, et puis après, à l'intérieur, il voulait faire un grand escalier. Il m'a dit, ça vous suffira d'avoir autant de mètres carrés. Je ne sais plus combien il nous laissait, 1200 mètres carrés. Mais je lui ai dit, non, Dominique, nous, il nous faut plus que ça.
C'est pour les artistes.
Il a dit, mais alors comment je vais faire? Je lui ai dit, mais écoute, Dominique, là, ce n'est pas toi qui vas être l'artiste, c'est les artistes qu'on présente. Ouais. Alors il a souri, il a ri, puis il a dit, oui, tu as raison, cherche un jeune architecte. Et ce qu'on a fait, on a fait
il a dit, je serai là, en soutien.
Et il a toujours été là, maintenant c'est un fou du silo, est toujours très proche, très amis. Ça n'a
mais
pas
il a su
tout
se retirer parce qu'il s'est dit, ok, c'est pas
voilà,
pour moi.
Voilà, ça n'a pas du tout altéré notre amitié, mais aussi, je pense que c'est un projet, lui il aime bien faire une vraie création.
Oui.
Le bâtiment existait, le silo, c'était un aménagement intérieur. Ouais. Donc je pense qu'il
c'était un silo à grains.
Oui.
D'accord.
Oui.
Alors, on va passer sur la deuxième partie de votre passion que j'évoquais tout au début, qui est la musique. J'ai entendu, j'ai lu que vous aviez renoncé en partie à l'art contemporain, parce que j'entends que vous continuez quand même
C'est parallèle.
C'est parallèle, mais que vous êtes allé vers le soutien de créateurs, de musiciens qui créent de la musique contemporaine.
Oui, oui.
Ça, je dirais que c'est encore plus différent. Puisque je pense que le public qui écoute de la musique contemporaine est extrêmement faible, ça demande aussi un apprentissage. Comment vous avez sauté ce pas?
Et surtout, il n'y a pas un problème d'argent. Il n'y a rien à acheter et rien à revendre. Il y a à aider le compositeur. C'est tout.
Il n'y a pas de marché de la musique contemporaine.
Donc on est les seuls. On a entraîné un peu une dame comme ça qui a commandé aussi un compositeur parce qu'elle est venue au silo. Mais sinon, nous on est venus à la musique parce que fin des années 80, il y avait déjà une petite spéculation qui commençait.
Ah oui, pour une anecdote, on entrait dans une galerie, on te disait « dépêche-toi ». Cet artiste va rentrer chez Metro Pictures ou je sais pas qui, White machin, aux États-Unis, donc les prix vont flamber. Et une autre galerie nous dit, ah, je vous mets sur une liste d'attente.
Ça nous a agacé terriblement.
Ouais.
Et comme la musique, on était musiciens, ma famille a pas mal de musiciens, donc la musique ancienne, on la connaissait. Et là, c'était encore un autre déclic. Ouais. On s'est dit, mais pourquoi on ne soutient pas? Il faut apprendre aussi la musique contemporaine, qu'on ne connaissait pas. Donc on s'est inscrit à l'IRCAM et on a commencé à écouter des concerts. Au début, c'était dur. Hein.
C'est
parfois, j'avoue, je me bouchais les oreilles parce que c'était dur.
Les concerts de l'ensemble
intercontemporain
de Boulez aussi.
Et puis, peu à peu, on a appris. C'est la même chose. Au début, on ne savait pas ce qui était bien, pas bien. On écoutait. Et puis après, on a su. Et un jour, on s'est dit, Philippe Manoury, c'est un compositeur qu'on aime beaucoup. Et on va aller voir le directeur de l'IRCAM, qui était Laurent Bell, qui est devenu après le président de la Philharmonie. Et on a dit, à l'époque on se voyait, et on lui a dit, mais est-ce que ça se fait que des particuliers, des privés commandent? Il a dit, personne ne le fait, mais vous pouvez le faire. Ouais. Donc, à ce moment-là, il a organisé un déjeuner avec Philippe Manoury, et ça a été notre première commande en 92. Voilà, et ça a été un moment formidable. Et on est devenus amis intimes de Philippe Manoury. Et c'est ça qui nous intéresse le plus, c'est d'avoir commandé la pièce. On en est fiers, mais d'avoir son amitié, c'est un bonheur de tous les jours.
Et vous les écoutez ? Parce que là, vous allez avoir... comment vous faites ? Est-ce qu'au silo, vous mélangez l'art plastique ou l'art minimaliste avec la musique ? Comment vous faites à écouter alors ?
On va au concert. On va dans tous les concerts, on le suit, Philippe Manoury. Ça, c'est le premier, mais après, il y a une quinzaine d'autres compositeurs qu'on soutient. Mais dès qu'il a un concert, là, il va avoir 70 ans cette année. Il y a beaucoup de concerts qui vont être donnés à la Philharmonie, à la Cité et ailleurs. Et là, on va y aller, on le suit.
D'accord.
Tu vois, la musique contemporaine, ce qu'on dit, parce que beaucoup de personnes nous disent « Ah oui, mais alors, tu t'intéresses, donne-moi des noms, je vais acheter des disques ». On dit non, non. Si tu t'intéresses à la musique contemporaine, on va te donner des dates de concert et il faut venir au concert. Mmh. La musique contemporaine, il faut d'abord l'écouter en étant présent dans la salle. Mmh. Parce que c'est un spectacle total. C'est un peu la même chose d'ailleurs en art. Si en art on nous disait donnez-moi des noms d'artistes, je vais acheter des catalogues. Non, le catalogue non, après des artistes visuels. Non, le catalogue peut-être dans un deuxième temps, mais le premier temps, aller voir les tableaux, aller voir les sculptures. Il faut être présent. Et en musique, c'est essentiel.
Il y a un compositeur qui s'appelle Helmut Lahrenmann. Pour nous, c'est un des plus. Il a 86 ans maintenant. Ouais. C'est un des plus grands compositeurs. Il est allemand et il y a un petit festival à Nîmes qui s'appelle les Volk. Et on est allé. Il a passé 4 jours, on a passé 4 jours merveilleux avec lui, mais il faut voir sa musique.
Et c'est intéressant que tu dises qu'il faut voir sa musique. C'est-à-dire que ça fait appel à tous les sens.
C'est un spectacle, parce que l'instrument de musique, il l'utilise pas seulement comme on le faisait d'une façon traditionnelle. Il peut retourner le violon.
Il va passer de l'harmonie au bruit, et comme ça, insensiblement. Et à un moment donné, on n'a plus que du bruit, mais la musique, elle est quand même encore là. C'est miraculeux.
Et est-ce que dans la vie quotidienne, le fait que vous soyez aiguisé les oreilles à cette musique a changé votre perception des sons de la vie ?
D'abord, on devient beaucoup plus exigeant, même sur la musique ancienne. La même chose pour les arts plastiques. L'œil devient beaucoup plus exigeant. Et quand on regarde la peinture ancienne, dans le temps, on avait l'impression que c'était ancien, donc c'était bien. Maintenant, on devient vraiment très exigeant et on revisite même
les artistes du 19e, des paysages qui remplissent certains de nos musées. On est amené à faire un tri important.
Et en
musique, la même chose. Il y a des choses qui, même des plus grands, y compris de Mozart, qui nous paraissent un peu faciles, qui sont des œuvres de circonstances.
Si Mozart est un très grand.
Parmi les plus grands, bien sûr.
Un des plus grands. Mais on juge à l'intérieur de l'homme. Beethoven, c'est dur de trouver un peu des choses moins bien. Mais chez des grands compositeurs, on peut trouver aussi des faiblesses, comme chez les grands peintres, c'est la même chose. Ouais. Mais ça, on le juge.
D'accord.
Alors qu'avant...
Parce que vous êtes venus des experts, vous avez un œil et une oreille.
L'œil et l'oreille.
Oui. C'est formidable. Et dans tout ce que j'entends là, on sent une volonté de transmettre, une volonté d'éduquer. Je l'entends beaucoup. Est-ce que vous l'avez fait avec vos enfants ? Est-ce que vous avez réussi ça ? Est-ce que ou alors ils s'en détournent en disant ça c'est le truc de nos...
Il y a un petit peu de ça parce que c'est difficile. Nos enfants sont formidables. Ils ont vécu avec cet art. Ils le connaissent bien. Surtout notre dernier fils a des œuvres chez lui. Mais c'est difficile pour eux parce que aller dans une galerie, quand ils allaient dans une galerie, on leur disait. Ah, vous êtes les fils ou la fille de Françoise et Jean-Philippe Bilharand. Oui. Pour des enfants, c'est exaspérant. Ils doivent faire leur
leur chemin,
eux-mêmes. Donc nous, on n'oblige pas du tout. Mais là, on a une petite fille qui a 16 ans oui. et qui s'intéresse beaucoup. Donc ça,
le relais va peut-être sauter une génération.
Voilà, peut-être, en général, c'est bien de sauter une génération. Mais nos enfants sont très formidables pour ça. Ils sont très admiratifs de ce que l'on fait et ils nous soutiennent.
Eh bien, on se dirige doucement vers la fin de cette discussion. Avant de vous poser une dernière question, je voudrais remercier Thierry Davila, qui nous a mis en relation, qui est conservateur au MAMCO à Genève.
Absolument.
Et qui m'a vivement conseillé de vous rencontrer.
Ouais, c'est quelqu'un de formidable.
Et je voudrais vous poser une question, puisqu'on a parlé de transmission, et traditionnellement, à la fin de ces discussions, je propose à mes invités de dire, mais est-ce que vous aimeriez me recommander quelqu'un que vous aimeriez écouter ? Alors ?
Bon, il y a bien sûr plusieurs noms qui nous sont venus à l'esprit. Il y en a pas mal des gens formidables. Mais on pensait que Philippe Manoury, que Françoise a cité, qui est un compositeur... qui a 70 ans cette année, qui est reconnu... en France,
en Allemagne,
aux États-Unis également, et qui a un parcours assez étonnant, puisque il faut qu'il vous le raconte, ouais, hein, quand il a commencé Auvergne,
oui.
comme ça, très loin de la musique, et comment il l'a découvert.
Et le personnage est passionnant.
Alors, il a enseigné... Il a enseigné une année au Collège de France, il a
D'accord.
été choisi, et c'est un homme qui est toujours passionné, qu'on voit des lettres parfois très polémiques, mais un peu comme faisait son père spirituel
Pierre Boulez dont il était très proche.
Je pense que
après Pierre Boulez, je pense qu'en France, c'est le grand compositeur après Pierre Boulez.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup de cette idée, et puis vous m'aiderez peut-être à le rencontrer, parce que je ne sais
pas
si vous le contacter.
Oui.
Puis je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de cette discussion et de nous raconter cette belle histoire.
Allons partager, comme vous le dites, c'est notre bonheur.
Merci à toi.
Merci.
Au revoir.
Au revoir. Voilà, cet épisode de Déclic produit par Toutac Pro est terminé. Si vous en êtes là et que vous l'avez aimé, laissez des commentaires et une notation sur votre plateforme d'écoute préférée ou laissez-moi un commentaire sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Rendez-vous toutes les semaines pour un nouveau Déclic. À bientôt.